Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue en ce mois de mai pour ce nouveau carnet de région, le magazine d'actualité que vous propose et vous diffuse des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon chaque semaine. Au sommaire, direction le viaduc de Millau, l'un des sites les plus visités de Midi-Pyrénées, qui verra passer ce dimanche, non pas des voitures, mais des coureurs à pied, plus de 15 000. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie ce samedi 17 mai, nous entendrons un témoignage, on parlera de transidentité et de l'action de l'association Montpellier-Rennes, le Refuge. Pour la première fois de son histoire, la Fédération nationale Handidance a choisi d'organiser sa rencontre nationale dans l'Aude à Carcassonne, c'était mercredi et jeudi. Nous parlerons du montage d'un spectacle unique en son genre, la nuit des Camisards, qui sera joué cet été du côté d'Alès. Une foire virtuelle sur l'éco-construction en cœur d'Hérault, c'est samedi et dimanche. Et puis en ce printemps, vous avez peut-être déjà fait des grillades. Sachez qu'au Sainte-Marie-de-la-Mer, dans le Gard, on prépare le deuxième championnat de France de barbecue. Ce sera le mois prochain. Le viaduc de Millau dans l'Aveyron qui surplombe le Tarn fête son 10e anniversaire cette année. Le célèbre pont sur la 75 a été terminé le 28 mai 2004, inauguré le 14 décembre de la même année. C'est depuis un axe autoroutier très fréquenté, c'est aussi un véritable attrait touristique, ce que nous explique Emmanuel Cachot, directeur général délégué de la compagnie Eiffage du viaduc de Millau.
Le viaduc reste un des viaducs les plus hauts du monde. Là, on détient toujours le record de la pile en béton la plus élevée à 245 mètres. Donc 10 ans après, le record n'a pas été battu. Et c'est un ouvrage connu et reconnu dans le monde entier. Tous les visiteurs qui viennent nous voir viennent voir le viaduc parce qu'il est à la fois magnifique esthétiquement et aussi parce qu'il représente des caractéristiques techniques exceptionnelles. Alors 2 500 km de longueur, 9 mètres plus haut que la tour Eiffel pour la pile P2. Et puis en termes de touristes, c'est le deuxième site touristique de Midi-Pyrénées après Lourdes. Je ne connais pas d'autres ouvrages autoroutiers qui soient également un site touristique comme peut l'être le viaduc de Millau. Vous avez des ouvrages dans le monde qui se visitent, comme le Harbour Bridge à Sydney, mais voilà, des ouvrages qui soient de véritables sites touristiques qui attirent, 10 ans après leur ouverture, plus de 400 000 visiteurs pour ce qui nous concerne, nous, Eiffage, ou plus d'un million de visiteurs sur l'aire du viaduc de Millau chaque année. C'est exceptionnel.
Et à l'occasion de ces 10 ans, la compagnie Eiffage a décidé de réorganiser pour la 3e fois une course qui va emprunter l'axe autoroutier qui va passer sur le célèbre viaduc.
Oui, c'est aussi une particularité du viaduc de Millau, c'est que c'est la seule autoroute en France qui ferme pour une course à pied. 15 500 coureurs se sont inscrits, qui va représenter à peu près 25 000 visiteurs sur la ville de Millau. Il va doubler la population de la ville de Millau samedi et dimanche. 15 500 coureurs qui vont s'élancer pour 23 700 km de course, dont la traversée aller-retour du viaduc de Millau. À l'origine, c'était une demande de spécialistes de la course qui avaient envie d'organiser quelque chose sur ce viaduc. Ça a été fait une fois en pensant qu'on le referait pas. Et ensuite, on l'a refaite une fois il y a 2 ans. Et puis, on s'est dit, pour l'année des 10 ans, refaire la course Eiffage du viaduc de Millau, c'était une bonne idée. Les collectivités locales, que ce soit la ville de Millau ou le conseil général, y étaient très favorables. Le président directeur général d'Eiffage, Pierre Berger, également. Et donc, on a souhaité réorganiser cette course. Et puis, c'est l'occasion de rappeler que c'est Eiffage qui a construit ce viaduc et qu'on en est toujours fiers, très très fiers, 10 ans après. Et c'est aussi l'occasion de rappeler aux Français ou aux touristes d'Europe que voilà, il y a un itinéraire par le Massif central avec la 75, qui est une autoroute magnifique et qui, en plus, leur permet de traverser le viaduc de Millau pour se rendre en vacances sur la côte ou en Espagne.
Et à l'occasion de cette course dimanche, la circulation sur l'autoroute A75, sur le viaduc de Millau, sera coupée de 8h30 à 13h30 entre les sorties 45 et 47, avec un itinéraire de déviation qui sera mis en place. La journée internationale de lutte contre l'homophobie a lieu ce samedi 17 mai. Le refuge agit quotidiennement dans ce combat depuis 2003 à Montpellier, puis progressivement un peu partout en France. Elle accompagne les jeunes rejetés par leurs proches en raison de leur orientation sexuelle. L'association lutte au quotidien sur les problèmes d'homophobie, mais pas seulement. Certains sont aussi victimes de transphobie. Yannick a vécu ce rejet du haut de ses 19 ans. Il est hébergé par le refuge depuis le mois de février. Maxime Triano de Radio FM Plus l'a rencontré. Il nous parle de son histoire et nous explique ce qu'est la transidentité.
La transidentité, c'est quelqu'un qui ne sent pas en fait en adéquation son corps et son esprit. C'est-à-dire que moi, je suis dans le sens une fille qui est devenue garçon. Et donc, je me sentais plus garçon depuis tout petit et pas garçon manqué. C'était vraiment un problème aussi au niveau du corps. Alors, le processus de changement d'identité, ça commence par un suivi psychiatrique pendant un certain nombre de temps où on voit donc un psychiatre et qui après décide ou non de donner une attestation pour aller voir un endocrinologue. Et il nous fait passer des tests, donc aussi bien psychologiques que physiques, pour voir si on peut prendre les hormones, donc une hormonothérapie, c'est à vie. Donc après, au bout d'un certain moment de traitement, on commence les opérations. Donc pour les FTM, femelle to male, donc fille qui est devenue garçon, ça commence par une mammectomie, qui consiste en l'ablation de la poitrine. Ensuite, l'hystérectomie, qui est la stérilisation obligatoire pour le changement d'état civil. Le changement d'état civil, donc avec un avocat, il faut passer au tribunal. Après, pour les gens qui le souhaitent, l'opération génitale. Ça fait un an et demi que j'ai eu le déclic, où je savais vraiment ce que je ressentais. Sinon, je sais qu'il y a un problème, entre guillemets, en moi depuis que je suis gamin, depuis vers la maternelle. Donc, je savais que j'étais différent des autres. Quand j'ai annoncé donc ma transidentité, il y a eu des avis mitigés. Donc j'ai quand même eu, au niveau de mes amis, beaucoup de réactions positives parce qu'ils voyaient que depuis que je m'assumais en tant que tel, j'allais beaucoup mieux. Par contre, par rapport à ma famille, ça a été beaucoup plus compliqué. Par exemple, la première personne à qui je l'ai dit, c'était ma mère. Ma mère, elle avait l'impression que j'allais devenir quelqu'un d'autre. Et aussi, elle avait peur du regard des autres, en fait. Du regard de la société, du regard des collègues, du regard de tout ça. Et pour mon avenir aussi, en fait, parce qu'on sait très bien que quand on n'a pas le changement d'état civil, quand on est en début de transition, c'est très compliqué pour trouver un emploi. C'est très compliqué si on veut faire des études. Après, mes sœurs, donc, il y en a une qui l'a très vite accepté tout de suite. Tant dans le milieu médical, elle s'en doutait. Par contre, la plus grande a eu beaucoup plus de mal, mais c'était vis-à-vis de la religion. Tout comme mon père, quand je lui ai dit, c'était vis-à-vis de la religion que ça n'avait pas passé, en fait. La religion musulmane, donc, parce que je suis issu de famille métisse. Donc, d'un côté, mon père, il est marocain et musulman, et ma mère est française.
Et c'est dans l'association Montpellier-Rennes, le refuge qui lutte au quotidien contre l'homophobie, que Yannis a donc été accueilli depuis le mois de février dernier.
Je suis au refuge depuis le 12 février 2014. J'ai été tout de suite bien accueilli. En fait, j'ai expliqué ma situation. Dès que je suis arrivé, en fait, j'ai eu une place en hébergement 15 jours après mon arrivée. Donc, en attendant, je participais aux permanences, je voyais les jeunes et tout ça. Et comme je m'entendais plutôt bien avec eux et que ma situation était compliquée, donc je rentrais dans le cadre d'un suivi. Le refuge m'a pas apporté qu'un logement. Le refuge m'a apporté aussi un soutien psychologique, un soutien de tous les jours, un peu comme une famille en fait que j'avais du coup un peu perdu puisque j'avais dû partir de chez moi quand même. Donc voilà, le président et le directeur, un peu comme mes papas d'adoption en fait. Les jeunes, un peu comme des frères et sœurs, avec les chamailleries, avec les réconciliations, avec les bons moments aussi. Plein de personnes et sans oublier les bénévoles, les stagiaires et les salariés qui font un travail formidable derrière.
L'association Le Refuge qui a mis en place une ligne d'écoute pour les victimes d'homophobie ou de transphobie. Il suffit d'appeler le 06 31 59 69 50, un sujet proposé par Radio FM+.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Ce week-end a lieu la Foire Expo à Vivre, à Gignac, dixième du nom, vitrine de la vie économique et culturelle de la vallée de l'Hérault, avec ses quatre pôles thématiques, maisons et jardins, tourisme, loisirs et services, produits régionaux et véhicules, 150 stands, 2 chapiteaux géants, 130 exposants professionnels. Nouveauté de cette année, la Foire Expo est aussi virtuelle, autrement dit en direct. Sur Internet, vous pourrez dialoguer avec des artisans dans le domaine de l'éco-construction, une manière originale d'accroître leur visibilité. Thierry Peytetas est chargé de mission informatique au Pays Cœur d'Hérault. L'écoute au micro d'Adrien Delgrange de RPH.
C'était aussi la volonté de mettre un outil de promotion à disposition des entreprises, mais un outil de promotion qui soit un petit peu novateur. Donc ces fameuses foires virtuelles dont on a parlé déjà depuis plus d'un an. Il s'avère que la première va avoir lieu ce week-end, parallèlement à la Foire Expo de Gignac. Donc, c'est une foire virtuelle consacrée à l'éco-construction au cœur d'Hérault. Vous pourrez vous rendre sur un site dédié à cette foire virtuelle qui s'appelle www.ecoconstruction-coeurdero.fr et vous découvrirez les artisans qui exposent leur savoir-faire. Vous pourrez rentrer en visioconférence directement avec eux sans aucune installation de logiciel particulier. Il suffit d'être équipé d'un PC avec une webcam et un micro. Vous pourrez découvrir des films de présentation de chacune de ces entreprises, aller sur leur site internet, leur envoyer des messages, enfin bref, évoluer à travers une foire, mais qui là est virtuelle. Alors, pour pas trop bousculer les habitudes, parallèlement à ça, les exposants de cette foire virtuelle seront présents sur le stand de l'éco-construction lors de la foire expo de Gignac.
La foire expo à vivre, c'est à Gignac, samedi et dimanche, en chair et en os, à l'espace culturel, et puis de façon virtuelle sur le site internet www.ecoconstruction-coeurdero.fr. C'était un sujet proposé par Radio Pays d'Hérault. Pour la première fois de son histoire, la Fédération nationale Handidance a choisi d'organiser sa rencontre nationale dans l'Aude à Carcassonne, salle du Dôme, sur 2 jours, ce mercredi et ce jeudi. 250 danseurs handicapés mentaux, moteurs, visuels ou auditifs pour un concours pas tout à fait comme les autres. Éric Boyer de RCF Pays d'Aude a rencontré celle qui a fondé la pratique Handidance en France, Cécile Aviot. Une pratique créée voilà 20 ans, actuellement très bien développée dans le nord de la France et qu'elle souhaite faire connaître dans le sud. Comment la danse peut être accessible aux personnes handicapées? Réponse de Cécile Aviot.
Alors, tout type de danse est accessible à la personne en situation de handicap, que ce soit du classique, du jazz, du hip-hop, de la danse orientale africaine, peu importe l'option de danse, elle est totalement accessible. Nous avons beaucoup de professeurs de danse formés à la pratique Handidance, c'est une formation nationale, ce qui permet justement l'intégration des personnes handicapées sur scène, en spectacle. La rencontre nationale, son objectif en fait, c'est que tous les danseurs soient récompensés de leur effort, de leur travail chorégraphique. Donc ils ont un diplôme, ils ont un trophée pour le chorégraphe. Après, l'objectif du concours, eh bien en fait, c'est d'être noté. Donc il y a un jury qui est formé et compétent pour justement donner une note de la chorégraphie représentée. En fonction de la note, les scrutateurs regardent le total et en fonction délivrent la note finale qui correspond à un premier prix, félicitations du jury, ou second prix ou troisième prix. Voilà.
Donc il y a quand même un classement. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de qu'ils soient fiers, qu'ils repartent contents.
Ah ben c'est que ce soit que du bonheur, ouais. Avec un B majuscule et de la danse avec un D majuscule. C'est l'intégration pour moi. Après, je dirais que ce n'est plus de la pratique Handidance. Je suis obligée de l'appeler comme ça parce que je me bats depuis 20 ans pour cette reconnaissance. Pour moi, c'est de la danse tout court avec des personnes différentes.
Et vous, ça vous change votre travail, ça a élargi. Vous aviez cette volonté d'élargir justement la danse à ce public-là.
Et quand j'ai démarré à 20 ans, je ne pensais pas aller jusqu'ici, jusque-là. Donc, en fait, j'ai du mal à être objective à l'heure d'aujourd'hui, étant donné que je ne les vois plus obligatoirement handicapés. Je les vois différents, je les vois avec des difficultés. Donc pour moi, ce sont des danseurs à part entière, comme tous les danseurs.
Et pour en savoir plus sur la pratique Handidance dans la région, il y a un numéro de téléphone, celui de Lisa Belliato, que vous pouvez joindre au 06 81 23 76 19. C'était un sujet de RCF Pays d'Aude. En ces périodes de disette budgétaire, de baisse des subventions et de grogne des intermittents, le spectacle vivant est confronté à l'obligation de prospecter de nouvelles pistes de financement pour continuer à créer. Outre les partenaires publics habituels que sont les collectivités territoriales, ce constat a amené le Zinc Théâtre à rechercher des partenaires privés pour faire vivre un spectacle estival unique en son genre. Une équipe de 30 personnes, comédiens et techniciens, fera ainsi revivre cet été à Alès et pour une série de 21 représentations de plein air, La Nuit des Camisards, un texte de Lionel Astier mis en scène par Gilbert Rouvière. Pour faire vivre cet ambitieux projet, le Zinc Théâtre s'est tourné vers des entreprises de la région alésienne pour nouer de nouvelles relations entre art et industrie, comme nous le détaille Magali Robert Zebrowski, en charge du mécénat au sein de la compagnie.
Mon rôle, c'est de mettre en relation les entreprises avec le spectacle La Nuit des Camisards et de trouver les moyens de convaincre finalement les chefs d'entreprise ou les dirigeants d'adhérer à un projet culturel de territoire. Qu'est-ce qui va les intéresser dans cette représentation? Quel est leur intérêt finalement de s'engager? Du côté du spectacle qui est proposé, c'est aussi qu'est-ce qu'on va proposer aux entreprises pour leur montrer aussi qu'on est ouvert et qu'on s'engage dans une vraie démarche de collaboration.
Cette démarche de collaboration, en quoi consiste-t-elle concrètement ?
Donc concrètement, le mécénat, on définit différentes enveloppes avec des budgets. Ces budgets correspondent à des contreparties qui vont de l'affichage du logo sur une affiche, qui vont de la mise à disposition d'entrées, qui vont de l'organisation d'un cocktail sur site, mais qui vont aussi, surtout, et c'est là-dessus qu'on a beaucoup travaillé avec Gilbert Rouvière, c'est de proposer une intervention en entreprise, puisqu'aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche culturelle et sociétale, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des salariés, comme ça a toujours été le cas, hein, bien sûr, mais de proposer une rencontre avec un historien, un metteur en scène, un comédien qui viennent dans l'entreprise, qui en parle, qui présente le spectacle, qui donne envie d'y aller. C'est là que tout est possible.
Jean Villard déjà proposait d'emmener le spectacle vivant dans les entreprises. Alors, quelle est la différence maintenant ?
La différence, c'est que on n'est plus novateur, bien sûr, mais l'art, c'est d'inventer sans cesse. La différence aujourd'hui, c'est que peut-être qu'à l'époque, la démarche était tellement nouvelle qu'on était dans la surprise totale. Aujourd'hui, je crois qu'il faut donner plus de conviction à ce genre de démarche. C'est-à-dire que Jean Villard l'a fait, mais la philosophie du mécénat, elle est plutôt anglo-saxonne. Et donc nous, en France, on est beaucoup centré autour des subventions, c'est-à-dire des financements publics. Donc l'entreprise, elle a quand même du mal à comprendre comment elle peut s'investir dans un projet qui au départ n'était pas le sien et où elle n'est pas mobilisée. Donc c'est là où il y a un travail à faire, finalement assez pédagogique ou didactique, avec les chefs d'entreprise en leur expliquant, mais vous pouvez y aller et vous pouvez y aller à votre dimension, à votre niveau, à votre hauteur.
Il faut adapter votre démarche à chaque type d'entreprise. Ce n'est pas toujours le même partenariat que vous proposez.
En fait, partenariat, il est régi par une loi, qui est la loi Ayagon de 2003. On a une déduction fiscale de 60% pour les entreprises et 66% pour les particuliers. Et ensuite, en termes de contrepartie, c'est-à-dire ce que l'événement va proposer à l'entreprise en échange de sa dotation financière en compétences ou en nature, c'est-à-dire en compétences, en mettant à disposition quelqu'un, ou en nature, en mettant du matériel, pourquoi pas à disposition, il ne faut pas que sa visibilité excède 25%. Moi, mon rôle, c'est de veiller à ce qu'on reste dans ce cadre-là.
Magali Robert Zebrowski, c'est une manière maintenant, le mécénat, de compenser l'absence, ou plutôt le retrait des collectivités territoriales, et en particulier du ministère de la Culture.
En fait, il y a deux niveaux. Hein. Après, c'est mon analyse. Il y a les financements, les subventions, je dirais, nationales, si on peut appeler ça, parce que la DRAC, c'est donc le ministère de la Culture, qui sont effectivement, qui diminuent, et c'est quand même très compliqué, ou qui sont attribués à d'autres événements estimés avec plus de visibilité. Enfin, bon, bref, les critères varient. Pour ce qui est des collectivités, effectivement, les budgets baissent. Mais par contre, les collectivités, elles ont compris l'intérêt de la culture pour elles sur leur territoire. Et c'est pour ça qu'il y a un engagement très fort de leur part. Après, elles n'ont pas toujours les moyens de maintenir ces événements culturels. Et c'est là où les partenaires deviennent essentiels. Et par ailleurs, c'est aussi un moyen de répartir les charges d'un point de vue technique, mais aussi de mobiliser différemment les publics sur les territoires et de montrer que tout le monde participe à l'élaboration de la cité et à des actions sociétales, culturelles, de proximité.
Un entretien réalisé par Yves Defago de Radio Grille Ouverte pour le Carnet de Région. Le barbecue, c'est une histoire entre le Sud et la Camargue. Jean-François Dupont, l'organisateur, l'a bien compris. Amateur ou professionnel du barbecue, venez tester vos compétences lors du prochain championnat de France. La seconde édition du Camargue Barbecue Festival se déroulera les 28 et 29 juin dans le Gard, au Sainte-Marie-de-la-Mer. La dernière édition avait été parrainée par Jean-Luc Rabanel, grand chef étoilé arlésien. Cette année, c'est au tour d'un ancien producteur, actuellement chroniqueur télé, Gérard Louvain, de soutenir la manifestation. Seul ou en équipe, vous pouvez y participer. On écoute Jean-François Dupont, l'organisateur, au micro de Naëva Servès de Delta FM.
En Camargue, pour moi, c'était une évidence parce que je suis arlésien. Et puis parce que il me semble qu'il y a eu une filiation naturelle entre le barbecue et la Camargue, tout simplement parce que c'est une terre d'élevage. et que c'est vrai que bah, le barbecue, on y fait quand même griller pour l'essentiel de la viande, et donc on a la viande toute trouvée avec le taureau de Camargue. Et pourquoi le barbecue? Bah, en fait, c'est une passion, une passion de cuisine en réalité. Et en regardant un peu ce qui se faisait en France au niveau du barbecue, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc avec des associés, des partenaires, on a eu l'idée de monter cette manifestation et ce championnat de France.
Premier championnat de France ici dans le territoire, c'est quand même un événement, on n'a jamais vu ça en France.
Ben, on n'a jamais vu ça, donc on a créé une fédération qui s'appelle la Fédération Française de Cuisine en Extérieur. On a défini des règles, un règlement, on a codifié tout ça. Et donc effectivement, ça va être la deuxième édition de ce championnat. L'année dernière, on a désigné 6 champions qui remettent tous leurs titres en jeu, qui viennent de toute la France. Et donc, ben voilà, on espère qu'il y aura beaucoup de candidats pour venir les concurrencer et essayer de les battre, de les titiller sur leur terrain.
Cette seconde édition va se dérouler donc au Sainte-Marie-de-la-Mer. Comment ça va se passer?
Ça se déroule sur 2 jours, donc ce sera le samedi et les dimanches 28 et 29 juin. C'est sur la plage du Clos du Rhône, donc celle qui est à l'embouchure du Rhône, à droite quand on arrive au Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc on a un immense stadium de barbecue, donc 80 barbecues bien alignés les uns derrière les autres, qui sont mis à la disposition des candidats. On met aussi à leur disposition la viande, les épices données par nos sponsors, de l'huile d'olive, enfin tout ce que nos partenaires mettent à notre disposition. Et puis les candidats s'affrontent en 3 manches et en 7 catégories. Donc le porc, le taureau de Camargue, le bœuf, l'agneau, le poulet, le poisson et les légumes. Et chaque candidat peut concourir dans 3 catégories, puisqu'il y a 3 manches. Il choisit à quel moment il veut passer. Et puis, on a un jury qui est présent sur l'ensemble de la manifestation et qui juge chaque plat. Et donc, le dimanche, aux alentours de 15h, on donne les notes de l'ensemble des concurrents et on désigne dans chaque catégorie le champion de France, l'équipe championne de France.
Dans chaque compétition, il y a toujours un jury. Quel est ce jury cette année?
On a un jury qui est composé de professionnels et d'amateurs. Donc nous avons un représentant de la Grill Academy Weber, donc qui est une école de cuisine au barbecue. Nous avons un représentant de l'Association des traiteurs de France, qui est une association qui regroupe une 40aine de traiteurs indépendants réunis sur l'ensemble de la France. On a un représentant du Conservatoire des cuisines du Grand Sud, qui est une association qui a pour but la promotion de la cuisine méditerranéenne. Nous avons aussi dans le jury un représentant de la chaîne des rôtisseurs, donc un boucher. Et puis nous avons un passionné dans chaque jury qui n'est pas un professionnel mais qui a goûté suffisamment de choses pour pouvoir évaluer les plats.
Comment se passent les inscriptions? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour s'inscrire?
Les inscriptions se font par équipe de 1 à 4 personnes, donc chaque équipe peut choisir jusqu'à 3 catégories. Et après, les inscriptions se font en ligne sur le site internet, donc www.bbqfestival.fr. Et donc, bah, toute la procédure d'inscription est bien expliquée et ça se fait en quelques clics.
Il y a le championnat de France de barbecue, mais il y a aussi un espace dédié au barbecue autour de cela.
On a accolé au championnat de France un salon du barbecue et du plein air. Donc, où des fabricants de barbecue, des producteurs agroalimentaires, enfin toute une série de professionnels viennent présenter leur matériel, leurs produits et leurs services et en faire la promotion à travers des démonstrations, des dégustations, tout ce qu'on peut imaginer pour satisfaire le public et pour qu'eux puissent faire découvrir leurs produits.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette seconde édition?
Eh bien, on peut nous souhaiter déjà un beau temps et puis après, bah, de beaux champions et puis beaucoup de spectateurs, parce que c'est vrai que c'est avec le public que la manifestation atteint finalement son but. Les candidats cuisinent et s'amusent et le public participe, c'est assez interactif, donc c'est ce qui est intéressant, c'est que les gens soient nombreux, donc il y a pas mal d'animations, de concerts, de jeux pour les enfants, donc on a mis en place tout un programme pour que les spectateurs passent une agréable journée et évidemment ils auront aussi la possibilité de déguster sur place des plats au barbecue.
Pour vous inscrire à cette compétition, seul ou en équipe, vous avez jusqu'à fin mai. Pour le faire, c'est en ligne sur le www.bbqfestival.fr. C'était un sujet proposé par Delta FM.
Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Ainsi s'achève ce carnet de région. Cette semaine, le magazine d'actualité que vous propose et vous diffuse des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Depuis 3 semaines, Radio Lodève va en assurer la rédaction en chef. La semaine prochaine, j'ai le plaisir de passer le relais à nos collègues de Radio Grille Ouverte. Je vous souhaite un très très bon week-end avec la suite de vos programmes.